Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, première conversation de cette série d'entretiens consacrée à la situation des droits de l'homme 70 ans après la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec Guido Raimondi, président de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette fin d'année 2018 est décidément riche en commémorations. Moins d'un mois après celle du centenaire de l'armistice et malheureusement aussi celle des attentats du 13 novembre, c'est un autre anniversaire que nous célébrons aujourd'hui même. En effet, il y a exactement 70 ans, le 10 décembre 1948, était signée à Paris, à quelques centaines de mètres de ce studio, au Palais de Chaillot, la Déclaration universelle des droits de l'homme. À vrai dire, ces deux séries d'événements, la guerre ou les attentats, et la consolidation de la paix par une convention sur les droits inaliénables et sacrés de la personne humaine, ces deux séries d'événements ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Les droits de l'homme sont en effet la réponse de la civilisation à la barbarie. Cette commémoration nous donne donc l'occasion de dresser un bilan des droits de l'homme, non pas un bilan de violation des droits de l'homme dans le monde, ce qui serait malheureusement trop long et trop pathétique, non, un bilan plutôt de l'idée des droits de l'homme. Cette idée est-elle toujours une boussole pour l'action politique? Il faut rappeler que l'un des auteurs de cette déclaration, le juriste français René Cassin, était un blessé de la Grande Guerre. Et c'est dans les associations d'anciens combattants français, mais aussi allemands, qu'a germé l'idée de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire l'idée que des droits peuvent outrepasser la souveraineté. Le même René Cassin, qui eut une carrière exemplaire, qui fut vice-président du Conseil d'État, fut également juge puis président de la toute jeune Cour européenne des droits de l'homme entre 1965 et 1968. Qui était mieux placé donc pour s'exprimer sur cette situation des droits de l'homme et de l'action de la Cour européenne des droits de l'homme que le successeur de René Cassin à la tête de la Cour européenne des droits de l'homme? Guido Raimondi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous présidez la plus grande juridiction du monde, en tout cas par le nombre de ses justiciables, parce qu'il n'y a pas moins que de 820 millions de justiciables européens, autant de citoyens qui peuvent en appeler à votre cour pour faire constater que leurs droits fondamentaux, ceux qui sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la CEDH pour faire court, que leurs droits ont été bafoués. C'est une tâche énorme, monsieur le président.
Je vous remercie infiniment de me donner cette opportunité. Permettez-moi de commencer en disant que vous évoquez le fait que je suis le successeur de René Cassin, ce qui ne manque pas de me mettre un peu dans l'embarras parce qu'il y a une différence de calibre évidente. Mais la figure de René Cassin reste une source d'inspiration inépuisable. Et en effet, comme vous l'avez dit, il était l'animateur du projet qui a d'abord produit la Déclaration universelle de 48. Et c'était une révolution du droit international. Vous avez bien dit, c'était la réponse de la civilisation à la barbarie et c'était justement révolutionnaire dans le sens qu'elle mettait l'individu au centre de la communauté internationale. Avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'on pouvait dire, et correctement en droit international, que la relation entre l'État et ses citoyens était comparable à la relation du propriétaire avec la chose possédée. Donc vous comprenez l'envergure de la révolution.
C'est ça. Et d'ailleurs, je m'excuse de vous interrompre, pour René Cassin, c'est absolument essentiel dans sa trajectoire, c'est parce qu'il est blessé de guerre et il dit la souveraineté, nous avons été blessés, mais nous avons des droits. Nous n'avons pas seulement le droit de nous taire et d'avoir obéi en quelque sorte à la souveraineté. Il y a quelque chose de plus fondamental.
Oui, mais vous savez que René Cassin avait des ambitions énormes, parce que il était derrière, comme on l'a dit, de la Déclaration universelle, mais il pensait justement à un projet universel. Mmh. C'est pour ça qu'ils avaient des réticences, des hésitations, quand on a commencé à penser à la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'ils voulaient pas une régionalisation des droits de l'homme, ils voulaient les droits de l'homme, que le droit de l'homme soit universel. Et donc après, la réalité l'a convaincu. En effet, il était l'un des protagonistes du projet européen pour la protection des droits de l'homme, qui en fait quand même une spécificité de notre continent, mais il pensait que à la régionalisation comme une limitation.
Mais justement, est-ce que c'était pas alors pour le coup, il avait tort sur ce point-là, parce que est-ce que ce n'est pas une des grandes forces de la Cour européenne des droits de l'homme que d'être assise sur un projet politique avec un P majuscule, celui de mettre l'homme au centre, d'orienter.
Absolument.
Tout d'abord. Et puis de réunir des gens qui ont des mœurs communes au sens de Montesquieu, c'est-à-dire des gens qui tous partagent une certaine conception de la une identité profonde, on pourrait dire, en tant qu'Européens.
En effet, ça existe, on peut le dire. C'est vrai que vous savez, on parle d'une Europe élargie, hein, parce que ce n'est pas que le 28 ou 27 étant membre de l'Union européenne, la Convention européenne s'adresse à 47 pays qui sont les pays membres du Conseil de l'Europe. Donc c'est une Europe plus large qui comprend la Turquie, qui comprend la Russie et d'autres pays de l'Europe centrale et orientale. Donc c'est vraiment un projet élargi. Hein. On parle de l'Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok.
Oui, oui.
Et c'est vrai, est-ce qu'on peut parler dans une réalité si diversifiée, on peut parler d'une identité, on peut avoir des idées différentes là-dessus. Mais moi, je pense que c'est le cas. Et en effet, la Cour européenne de droits de l'homme, dans sa jurisprudence, a créé l'idée d'ordre public européen. C'est, disons, un ensemble de valeurs autour desquelles les 47 pays se reconnaissent.
Oui, c'est ça. Alors, Angela Merkel, il y a quelques semaines à Paris, lors des célébrations du 11 novembre, a eu un propos que je trouve qui nous fait réfléchir, très puissant. Elle a dit, mais serions-nous capables aujourd'hui, en novembre 2018, de refaire un instrument comme la Déclaration universelle des droits de l'homme? Parce que force est de constater, cher Guido Raimondi, que les droits de l'homme n'ont plus la cote, ils sont plus tellement à la mode.
Bon, c'est vrai que, comme vous l'avez dit vous-même, les conditions politiques qui ont permis la naissance de ce projet étaient exceptionnelles. On était au lendemain d'une tragédie immense. Et il est évident aussi que les conditions politiques ne seraient pas réalistes. Le propos de Mme Merkel, je pense, est réaliste. Oui. Probablement, on ne trouverait pas aujourd'hui la force, on ne trouverait pas les motivations politiques qui permettraient d'arriver à un tel projet qui implique, il ne faut pas l'oublier, des renonciations importantes au principe de souveraineté. La Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel lequel individu, donc il n'est pas nécessaire qu'il possède la nationalité de l'un des pays qui participe au projet.
Et ça peut être un étranger sur le territoire.
Absolument. Ou même en dehors du territoire, hein, parce que par exemple, dans l'affaire Hassan, la Cour a affirmé sa propre compétence à l'occasion des missions de paix qui sont passées en dehors du continent européen.
Vous pouvez nous rappeler les conditions de l'affaire Hassan, parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs là s'en souviennent.
C'était pendant l'occupation de l'Irak, par les forces alliées américaines et britanniques, et donc c'était la question de savoir si les agissements de ces forces impliquaient une application de la Convention. Et donc, même dans ces situations extrêmes qui se passent au-delà du continent européen, du territoire du continent européen, la Cour a affirmé sa compétence. Donc, il y avait même une protection en dehors du territoire géographique de l'Europe. Mais pour revenir à votre question, oui, les conditions seraient aujourd'hui très, très difficiles. Et le fait qu'il y a eu des critiques C'est vrai, au niveau politique, on assiste de plus en plus à des critiques à la jurisprudence de la Cour, notamment alors que la Cour s'occupe de questions sensibles comme la migration, donc le traitement des étrangers et des choses comme ça. Mais au même moment, on assiste à une pénétration de plus en plus profonde de la Convention et de ses valeurs à l'intérieur du système juridique des pays contractants. Donc, si le discours politique devient de plus en plus critique vis-à-vis de la Convention, on assiste à une meilleure application, donc à une pénétration qui se développe toujours à l'intérieur des systèmes juridiques, parce que on peut dire que les juridictions nationales sont de plus en plus gagnées à l'idée de l'application de la Convention. Et c'est ça, disons, pour moi, le grand succès de ce projet.
Guido Raimondi, je rappelle que vous êtes président de la Cour européenne des droits de l'homme et vous parliez de pénétration de l'idée de droits de l'homme, de diffusion, on pourrait dire, dans les droits nationaux. Et c'est pas une diffusion directe, c'est un esprit qui est partagé parce que la Cour doit composer avec des contextes culturels tout à fait différents.
Absolument. Oui, mais je pensais d'abord au caractère subsidiaire de la Convention. C'est-à-dire que la Convention peut fonctionner seulement si elle est bien appliquée à l'intérieur des États. Donc l'institution européenne, la Cour, est là pour remédier à des erreurs, à des difficultés d'application, mais qui doivent rester rares. Elle ne peut pas se saisir de la totalité de l'application des droits de l'homme. Donc le système est vraiment fondé sur la subsidiarité et donc sur le bon fonctionnement de la Convention à l'intérieur des États et donc sur la bonne application de la Convention par les juridictions nationales.
Alors, Monsieur le Président, il y a dans les pays que vous avez mentionnés, il y a des pays qui ont une tradition ancienne concernant le droit. Il y a des pays pour lesquels c'est plus nouveau, je pense notamment au sud de la Turquie ou bien sûr à la Russie et à l'Ukraine qui posent en plus qui sont en conflit de surcroît.
Oui, là c'est vrai. Et disons avec disons certains pays, les valeurs de la Convention entrent en tension davantage, disons avec la réalité nationale. Mais là même dans ces pays où il y a évidemment des difficultés, mais cette idée est perçue au moins parmi les milieux, les plus cultivés, les milieux les plus progressistes, comme un moyen de modernisation du pays. Vous savez, on peut évoquer ce qui se passe en Russie, où il y a parfois des difficultés à faire accepter les valeurs de la Convention. Mais j'ai parlé, par exemple, récemment avec le président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, qui est un grand partisan de la Convention, et qui le voit justement comme un moyen de modernisation du pays. Oui, c'est une grande pertinence du projet, même dans les pays où ça c'est plus difficile.
Alors c'est intéressant parce que c'est d'ailleurs, ça en surprendra peut-être plus d'un, c'est que la Russie a eu à cœur d'exécuter une grande partie des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, vous touchez là un point très important et qui est aussi utilisé dans certaines polémiques contre la Cour, dans le sens que on constate, et c'est la réalité, qu'il y a certains arrêts qui ne sont pas exécutés. Donc ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas se cacher. Et c'est vrai que certains de ces arrêts concernent la Fédération de Russie. Et là, c'est vrai que, par exemple, il y a les arrêts qui concernent la région de Transnistrie. Vous connaissez, oui, c'est une partie de la Moldova sur laquelle la Moldova n'a pas de contrôle. Et là, il y a une jurisprudence de la Cour qui dit que la Fédération de Russie est responsable, du point de vue de la protection des droits de l'homme, pour ce qui se passe dans ce territoire. Et voilà, c'est une jurisprudence qui n'est pas acceptée par la Fédération de Russie, et donc ce qui implique évidemment des difficultés pour l'exécution des jugements irrelatifs, des arrêts irrelatifs. Mais au même moment, comme vous le dites vous-même, la très grande majorité des arrêts concernant la Fédération de Russie sont fidèlement exécutés, ce qui veut dire qu'il y a une acceptation profonde, même par la Fédération de Russie, de ce système.
Oui. Et d'ailleurs, dans le fond,
rejeté.
Oui, mais si je vous entends bien, Monsieur le Président, ça veut dire que, y compris de la Russie, je trouve ça très intéressant, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a une partie de la politique qui relève de la souveraineté pour je pense que ce sera la même chose pour la Crimée ou pour la Transnistrie, mais que de manière intérieure, pour leurs institutions, ils voient dans l'instrument de la Convention européenne et dans la Cour européenne des droits de l'homme une sorte de levier pour se moderniser.
C'est au moins ce que je pense, oui. Et c'est l'impression que j'ai tirée de mes colloques avec ces responsables, plutôt judiciaires évidemment que politiques russes.
Bien sûr, alors, puisqu'on parle de Russie, il faut parler aussi de la France, un petit mot sur la France, Guido Raimondi.
Oui.
Il y a cette idée en France, qu'on entend parfois dans le débat public, que la France est souvent condamnée, et que c'est une situation des droits de l'homme qui est intolérable. Et qui grave infraction.
En tant qu'Italien, je suis jaloux de la France parce que vous savez, maintenant, il y a contre l'Italie, grosso modo, 4700 affaires pendantes devant la Cour. Et c'est déjà une amélioration parce qu'il y a 2 ans, il y en avait 15 000. Vous savez, maintenant, il y a grosso modo 500 affaires pendantes concernant la France. Donc vous comprenez que je suis jaloux.
Oui, mais comment vous faites? Comment fait votre cour pour gérer un tel contentieux? Parce que les violations des droits de l'homme, il y en a partout. Ça fait partie de la vie, de la coexistence humaine, que d'avoir des frottements, et notamment avec le pouvoir politique. Comment est-ce que vous vous organisez pour administrer une telle masse de contentieux?
C'est le problème, mais là, vous savez, la Cour reçoit chaque année en moyenne 60 000 requêtes, ou même plus certaines années. Et alors, c'est vrai que la plupart de ces requêtes sont des requêtes qui sont plus ou moins clairement irrecevables. Et alors, depuis 2010, la Cour dispose d'un outil qui est très efficace, c'est le juge unique. Donc nous avons la possibilité d'avoir une formation minimaliste judiciaire, donc composée d'un seul juge, qui peut, de manière très rapide, déclarer une requête irrecevable. Et en effet, c'est la plupart des requêtes qui arrivent à la Cour qui sont déclarées irrecevables comme cela. Et pour ce qui est donc des requêtes qui sont vite identifiées comme ayant vocation à être traitées par le juge unique, ça c'est très efficace, dans le sens que l'arriéré des requêtes qui rentrent dans cette catégorie est tout à fait gérable. Et nous en avons grosso modo 5 000, ce qui est un chiffre tout à fait gérable. Oui. Donc, après le juge unique, ça marche très bien. Et nous avons, disons, un groupe de contentieux qu'on peut qualifier de répétitifs. Donc, des affaires qui sont grosso modo 25 000. Qui sont des affaires qui reflètent des problèmes systémiques à l'intérieur des États et qui sont le résultat d'une difficulté plutôt d'exécution.
Comme par exemple la surpopulation pénale. Il y a des pays comme la Hongrie ou l'Ukraine où c'est un problème systémique.
Là, oui, c'est systémique et là évidemment ça donne lieu à des affaires répétitives, même si ces affaires sont considérées prioritaires, parce que justement vous me demandez quels sont les outils mis à point par la Cour pour faire face à cette masse de contentieux. L'un des outils est la prioritisation des affaires. Nous avons des affaires qui sont traitées avant les autres, et notamment les affaires qui concernent l'article 3 de la Convention, c'est-à-dire la disposition qui interdit la torture, les traitements inhumains et dégradants, et c'est la disposition qui est invoquée alors qu'on parle de la surpopulation carcérale. Et voilà, donc ces requêtes sont, oui, répétitives malheureusement, c'est-à-dire que c'est un problème de masse, mais elles sont également prioritaires parce qu'elles touchent au cœur de la Convention.
Vous avez aussi cette technique intéressante de l'arrêt pilote, c'est une sorte d'arrêt de référence,
quoi. Oui, absolument. Ça, c'est justement quand la Cour constate qu'il y a un problème d'ordre systémique, c'est-à-dire que s'il ne s'agit pas d'une violation ponctuelle de la Convention, mais c'est un problème qui reflète une loi ou une pratique générale. Alors la Cour, mais là il faut la collaboration, disons, du pays intéressé. Si le pays intéressé donne sa disponibilité, la Cour procède avec un arrêt pilote, justement, donc un arrêt qui prend en considération une affaire ou certaines affaires. Et après, elle ne se limite pas à trancher l'affaire en question et à donner satisfaction, le cas échéant, à la victime, mais elle identifie les mesures générales qui doivent être adoptées par l'État concerné. Et si l'État concerné s'acquitte, disons, de ses devoirs qui sont fixés dans l'arrêt pilote, après la Cour, pour ainsi dire, rapatrie les autres affaires qui sont restées pendantes pour qu'elles soient traitées au niveau national. C'est sur la base des réformes adoptées par l'État entre-temps.
Ça veut dire que la Cour se positionne un peu dans une situation de dialogue positif, constructif, vertueux avec les États.
Oui, c'est un peu une nécessité, hein, parce que sinon la Cour ne pourrait jamais gérer efficacement cette masse de contentieux, parce qu'en effet cette pratique de l'arrêt pilote est aussi critiquée, parce qu'on dit mais dans cette manière vous limitez l'accès au juge, parce que pendant le temps où la Cour décide l'affaire témoin, l'affaire pilote, les autres affaires restent au frigo.
Oui, c'est ça.
Alors là les requérants évidemment peuvent se plaindre, parce que mais vous ne traitez pas nos affaires. Mais c'est, disons, pour la bonne cause, parce que si la Cour identifie un problème systémique, bon, elle s'efforce de le régler une fois pour toutes.
Et alors, vous pratiquez aussi le dialogue avec les juges. Ça, c'est très important pour la Cour européenne. Si vous essayez aussi de constituer une Europe des juges.
Bon, ça, non. C'est un slogan que je trouve dangereux. En effet, il faut que la politique ait tout son espace. C'est indispensable. Et d'ailleurs, ça, c'est la démocratie est vraiment la prémisse pour la bonne protection des droits de l'homme. Donc là, il ne faut pas présenter avec les slogans l'Europe des juges.
Non, bien sûr. La politique
doit garder toute sa place.
Mon expression était malheureuse.
Mais je dirais, en effet, oui, comme je disais avant, il y a eu une pénétration remarquable de la Convention à l'intérieur des systèmes juridiques nationaux, et ça se doit justement à une sensibilisation croissante des juges nationaux. Et ça, évidemment, c'est pour ça que la Cour s'investit énormément sur ce front.
Monsieur le Président, je pensais à l'affaire de la Pologne. Parce que l'expression Europe de juges est maladroite, je la retire immédiatement et j'irai plutôt un dialogue entre les juges. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des pays, et je pense à la position de la Cour vis-à-vis du président, si je ne m'abuse, de la Cour constitutionnelle polonaise. Là, il y avait quand même quelque chose de très préoccupant concernant le statut des juges.
Mais vous parlez peut-être la Cour de Strasbourg s'est occupée d'une personnalité qui avait une haute fonction judiciaire, mais c'était pas à propos de la Pologne, c'était à propos de la Hongrie.
Ah pardon, excusez-moi.
C'était en effet le président de la Cour suprême hongroise qui, d'ailleurs, c'était un ancien juge de notre cour, qui a créé pas mal de difficultés, parce que vous savez, évidemment, c'est pour composer un collège formé de juges qui connaissaient pas.
C'était difficile.
Le requérant, c'était un peu difficile, mais on y était arrivé. Mais c'est une affaire qui a mis en cause la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et c'est un sujet très, très sensible de nos jours. C'est maintenant, comme vous le savez, c'est la Cour de Luxembourg qui est confrontée à ce genre de situation, notamment cette fois, effectivement, avec la Pologne. Et là, c'est un grand, grand sujet de nos jours. Mais là, je me borne à dire que là, il y a une idée de démocratie qui est indispensable au fonctionnement du système européen de droits de l'homme. Et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est-à-dire que là, le préambule de la Convention parle de démocratie effective. C'est le seul modèle compatible avec la Convention.
Thank you.
France Culture, Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Guido Raimondi, qui est président de la Cour européenne des droits de l'homme, pour faire un peu un bilan de l'état et de la situation de l'idée de droits de l'homme en Europe. Alors, monsieur le président, vous parliez de cette idée centrale, bien sûr, d'effectivité. Ce que la Cour européenne des droits de l'homme cherche à faire, c'est sa mission en quelque sorte, c'est de rendre des déclarations, des droits qui sont annoncés, qui sont déclarés, de les rendre plus effectifs. Mais à suivre les affaires et les requêtes au jour le jour, cela amène votre cour aussi à découvrir et à débroussailler, j'allais dire, des problèmes nouveaux, des problèmes qui sont posés par l'évolution des sciences, l'évolution des formes de violence. On parle du terrorisme. Comment est-ce que votre cour s'y prend-elle pour traiter, tout d'abord par exemple, cette question des nouvelles technologies?
Oui, non, ce sont des grands défis, évidemment, et vous évoquez maintenant les nouvelles technologies, et là, effectivement, il y a, je pense, encore du chemin à faire pour la jurisprudence de la Cour, qui, même si la révolution digitale date désormais de plusieurs dizaines d'années, mais c'est seulement maintenant qu'elle commence, disons, à fixer des points précis. Mais on a eu un arrêt très important, qui est l'arrêt Delphi contre Estonie, qui a déjà fixé le principe que, disons, pour parler de manière très générale, le Far West n'est pas admis dans Internet. Donc, c'est pas des grandes prairies où chacun peut faire ce qu'il veut. Quand même, il faut protéger les droits des autres. C'est ce que la Cour a dit dans cet arrêt, en fixant certains critères de responsabilité pour les gérants de plateformes digitales sur Internet. Évidemment, c'est une question qui doit être encore explorée par la Cour.
Oui, mais c'est quand même très intéressant parce que vous êtes les premiers, la Cour a été la première à poser cette question qui, à mon avis, est essentielle, d'ailleurs, qui a été reprise lors du Forum pour la paix le 11 novembre à Paris, qui est la responsabilité des portails d'actualité. C'est la question des fake news qui est derrière. Alors, vous êtes aussi beaucoup intéressé aux excès de la liberté d'expression, mais il y a une affaire que j'ai trouvée très intéressante, qui a été rendue il y a quelques mois, c'est l'affaire Zakharov contre la Russie.
Ah oui, absolument. Là, c'est le Big Brother, c'était la Cour là a fixé des limites à la possibilité que l'État ont de surveiller leurs citoyens. Dans l'affaire Zakharov, on a mis au clair qu'il y avait un système très pratique, disons, dans la Fédération de Russie, dans le sens que chaque téléphone portable avait une puce qui permettait, si de besoin, d'intercepter les conversations qui se passaient à travers ce téléphone. Donc là, la Cour a dit quand même qu'il faut un appareil, c'est une intrusion dans la vie privée des personnes, qui n'est pas exclu en soi, s'il y a un objet légitime, si la mesure est proportionnée, ça n'est pas exclu. Mais dans le cas d'espèce, donc, il n'y avait pas une suffisante garantie, notamment d'un point de vue de la clarté de la loi qui permettait cette intrusion.
Oui, c'est ça. Clarté de la loi, c'est le président Raimondi, la France en a fait les frais de votre jurisprudence aussi, mais pour le meilleur, parce que la France a été condamnée dans une affaire d'écoute pour n'avoir pas assez c'est suffisamment organisé, sont encadrés, les écoutes téléphoniques qu'il fallait pratiquer.
Ça date, c'est les Uvig et Kreuzlin de 90, donc ce sont des affaires assez anciennes. Là, en effet, c'était pas que la France n'avait pas de règles, mais simplement ces règles étaient fixées par la Cour de cassation dans sa jurisprudence, et la Cour a dit à l'époque, non, ça ne suffit pas, il faut, pour protéger la vie privée des personnes, il faut une loi qui soit claire et qui fixe exactement les limites de la possibilité d'intrusion de l'État dans la vie des citoyens.
Et là, on retrouve le dialogue dont nous parlions avant d'avoir écouté le morceau que vous nous avez choisi de nous faire écouter, splendide morceau de Tsargas.
Vous savez, c'est de la musique hongroise créée par un napolitain, ce qui brise un peu certaines logiques rhétoriques identitaires. Macron.
Parce que, précisément, vous-même, président Raymond dit, en tant que Napolitain et président d'une cour européenne, vous êtes, voilà, c'est une cour qui est à la fois sur la Méditerranée et à l'Est.
Oui, oui, en effet, vous savez, je suis plutôt pour la cohésion hein, des peuples, pas pour la division.
Alors, justement, président Raimondi, un autre défi de notre Europe, qui est un défi mondial, mais qui se pose pour notre Europe, c'est bien sûr celui des migrants.
Absolument.
Là aussi, vous êtes concerné directement par cette
absolument.
Difficulté.
Bon, vous savez, évidemment, ça, c'est une situation gravissime qui est sous les yeux de nous tous. C'est un problème de notre époque. C'est un problème historique, d'envergure historique, parce que évidemment, on n'a jamais assisté à une migration de masse de cette envergure. Et c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une avalanche de requêtes concernant ce problème. Ça n'était pas été le cas jusqu'à présent, probablement parce que il y a encore plusieurs de procédures d'asile qui sont en cours au niveau national, qui ne sont pas encore terminées. Une fois ces procédures terminées, probablement on assistera à une augmentation dramatique des requêtes concernant ce phénomène de la migration.
Oui, oui,
mais cela dit, dites-moi.
Oui, non, vous avez quand même fixé quelques règles quand même déjà.
Absolument, c'est ce que je voulais dire, qu'on a déjà une jurisprudence qui est assez claire. Et je pense que cette jurisprudence couvre tous les aspects du phénomène migratoire. D'abord, il y a le principe qui a été fixé en 81 avec l'arrêt Abdulaziz et autres contre le Royaume-Uni. Et c'est un principe qui reste toujours valable. Et c'est le principe d'après lequel les États restent maîtres de leurs frontières. Mm. C'est-à-dire que il n'y a pas un droit à l'immigration.
Pas de droit à l'hospitalité.
Et non, ça, on n'a pas ce droit dans la Convention. Mmh. Mais cela dit, si une personne, de manière légale ou de manière illégale, se trouve sur le territoire d'un État, cette personne est protégée par la Convention. Mmh. Donc, évidemment, il faut la traiter avec tout le respect pour sa dignité. Il faut se préoccuper de ses besoins primaires. Il ne faut pas la mettre en détention sans les garanties prévues par la Convention, parce que là, c'est aussi un point délicat. La Convention permet de priver de la liberté une personne seulement pour réglementer les flux migratoires, donc sans que cette personne soit accusée d'un crime. Possible d'après la Convention. Mais, évidemment, il faut que cette détention soit l'extrême ratio, ça soit utilisé vraiment comme moyen de dernier
recours. En dernier recours.
Et que la détention se passe dans des conditions qui tiennent compte des particularités de cette nécessité et donc du fait que justement la personne n'est pas accusée d'aucun d'un crime.
Elle doit bénéficier aussi d'une certaine sécurité juridique, cette personne.
Absolument. Et il faut toutes les garanties prévues par la Convention, notamment par son article 5. Donc il faut une loi, il faut un juge pour contrôler la privation de liberté et tout ça. Et la chose peut-être garantie la plus importante, la personne ne pourra pas être refoulée vers un pays où elle risquerait un traitement contraire à la Convention, notamment ces articles 2 et 3. L'article 2 protège la vie, l'article 3, comme je l'avais dit, protège contre la torture, les traitements inhumains et dégradants.
Alors, vous avez donc créé une sorte de garantie d'habeas corpus pour l'Europe.
Oui.
Et alors, c'est intéressant, je voudrais qu'on vienne ce que vous parliez du fait, alors là, c'est pour les migrants qui arrivent, mais il y a aussi les étrangers que l'on renvoie chez eux. Il y a une histoire intéressante de la Cour parce que vous avez évolué sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'évolution de la jurisprudence de votre cour depuis une affaire en 2008 qui concernait le Royaume-Uni et l'affaire, une affaire beaucoup plus récente, l'affaire Papouchvili?
Mais oui, absolument. Mais d'abord, je voudrais dire un mot sur les racines de cette jurisprudence qui date de 89 avec l'affaire Söring. Mmh. Là, c'était une affaire d'extradition qui concernait la possibilité d'extrader vers les États-Unis, à partir du Royaume-Uni, une personne qui risquait la peine de mort aux États-Unis. Là, à l'époque, on ne pouvait pas dire que la Convention interdisait la peine de mort. C'est le cas maintenant. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais ils avaient la requête était présentée sous forme d'article 3, c'est-à-dire qu'on se basant sur le système américain que nous connaissons tous, la personne risquait de rester 10 ans dans le couloir de la mort, ce qui était un traitement contraire, non pas à l'article 2, droit à la vie, mais à l'article 3, droit contre la torture, l'interdiction de la torture et interdiction des traitements inhumains et dégradants. Et donc, finalement, la Cour avait forgé cette idée de l'application par ricochet de la Convention, parce qu'il ne s'agissait pas de traitements infligés par le pays qui était défendeur devant la Cour,
mais par les États-Unis,
dans un pays tiers, oui, donc justement. Et donc c'est là que est née cette idée d'application indirecte de la Convention, qui est utilisée maintenant de plus en plus avec les étrangers. Et maintenant, vous évoquez cette question très, très délicate de la personne qui est malade. Là, c'était qui est très, voire très, très.
C'est ça. Là, c'était une Ougandaise, en l'occurrence. Hein.
En effet, dans l'affaire britannique de Saint Kitts, qu'on appelle l'affaire de Saint Kitts, parce qu'en effet, c'était une personne qui était, vous parlez de l'affaire 2008. Hein, quelqu'un qui était très, très malade, de sida, en phase malheureusement terminale. Et donc, on savait, il était aux États-Unis, et s'il avait été expulsé vers son pays d'origine, c'est-à-dire Saint Kitts, on avait presque la certitude qu'il serait mort après quelques jours. Et alors là, dans cette condition extrême, la Cour a dit que là, c'était une question limite. Donc, il fallait appliquer l'article 3 indirectement et que donc, cette expulsion ne serait pas compatible avec la Convention. C'est vrai qu'après, la Cour a une jurisprudence assez qui appliquait très strictement ce principe, strictement dans le sens qu'elle a réservé cette application vraiment au cas extrême, quand il y avait un risque de mort imminente.
C'est ça.
Avec l'affaire Papochvili, je ne pense pas, mais on peut avoir des lectures différentes, que ce standard soit vraiment changé. Mais ce qu'on a dit dans Papochvili, c'est que quand une situation de maladie gravissime, avec risque pour la vie de la personne, est évoquée, dans le sens que le niveau de soins dans le pays de destination n'est pas le même que celui qui existe dans le pays qui procède à l'expulsion, là, il faut évidemment avoir des garanties de procédure. Donc, les autorités, avant de décider une expulsion dans ces conditions, ont l'obligation de vérifier soigneusement et avec toutes les garanties pour la personne requérante que le standard fixé par la jurisprudence de la Cour soit respecté. C'est ça ce qu'on dit en gros dans Papochvili contre Belgique, l'affaire que vous venez d'évoquer.
Alors, parce que vous êtes confronté, j'allais dire, c'est votre destin de cours, d'abord de vous, comme les auditeurs l'auront compris, de réfléchir à partir des cas, de situations, de choses concrètes, peut-être l'arrêt Sakharov, vous avez considéré une législation abstraitement, mais voilà. Et puis, des questions limites, c'est des questions terribles. En France, on a eu l'affaire Lambert que vous avez... vous avez tranché également, auquel vous avez renvoyé en disant que le Conseil d'État avait bien jugé cette terrible affaire.
En effet, là, la Cour, dans ces situations très très délicates et sensibles, hein, parce que question de fin de vie. Applique, disons, reconnaît ce que nous qualifions une large marge d'appréciation. C'est ça que la Cour a fait. Et dans l'affaire Lambert, donc elle n'a pas vraiment dit que le Conseil d'État a bien jugé, c'est-à-dire que la solution retenue par le Conseil d'État rentrait dans la marge marge d'appréciation qui est reconnue aux États.
C'est ce que vous avez décidé également dans des affaires extrêmement sensibles en France comme dans tous les pays, sur le voile, en l'occurrence sur la burqa dans l'arrêt SAS.
Oui. Oui, oui, absolument. Là, c'est une affaire dans laquelle la Cour a une fois de plus reconnu cette marge d'appréciation. Elle a reconnu la validité des motifs invoqués par la France. Et elle a considéré que la réponse était proportionnée, disons, même en tenant compte de la, disons, de la faible réaction, parce disons, que, dans le sens que là, il y avait une amende qui était prévue, qui était très légère. Disons.
Mais vous avez visé quelque chose de très important, c'est que vous avez visé, votre cours a visé le vivre ensemble. C'est-à-dire que la difficulté que vous avez, je pense à l'affaire de la croix dans les écoles de bavaroise, chaque pays, finalement, a son manière de vivre, quoi.
Oui, en effet, là, c'était plutôt le crucifix dans les écoles italiennes.
Pardon, décidément.
Oui, parce que c'était la cour de Karlsruhe qui avait jugé l'affaire des crucifix en Bavière.
En Bavière,
Oui. Non, en effet, là, c'est quand il s'agit de ce genre de questions, la cour reconnaît une large marge d'appréciation. D'ailleurs, vous aviez évoqué avant. Et là, je vois que peut-être je n'avais pas bien répondu immédiatement, mais vous avez dit, mais comment on peut affirmer ces droits dans un contexte qui est si varié,
oui,
c'est-à-dire
ben oui.
qu'il y a des cultures qui sont très très différentes les unes des autres. Et là, effectivement, la Cour a fixé cette doctrine de la marge d'appréciation, ce qui veut dire que effectivement, elle reconnaît qu'il y a une différence, qu'il y a plusieurs différences.
Oui,
et donc, elle reconnaît que les autorités nationales, et quand elle parle des autorités nationales, elle vise et le législateur et le juge, sont plus proches de la réalité. Et donc, ils sont dans une position privilégiée. Et donc, en principe, il faut respecter ce qu'ils font.
C'est ça.
C'est ça un peu l'idée.
Monsieur le Président Raimondi, cette émission approche de son terme et notre réflexion portée, ma première question, c'était de savoir si les droits de l'homme avaient la cote. Les auditeurs se sont rendus compte à quel point vous avez en garde les promesses de la Convention européenne des droits de l'homme. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quelle est votre vision ou votre espoir pour l'avenir des droits de l'homme?
Je reste optimiste. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais choisi ce morceau, qui commence de manière assez triste, mais après devient gay, voire très, très, très gay. Donc, c'était vraiment pour ça. Et en effet, c'est vrai qu'il y a, disons, les critiques s'intensifient. Mais en même temps, je vous avais dit, il y a une pénétration majeure qui se développe de plus en plus à l'intérieur des systèmes juridiques nationaux. C'est ça qui me rend optimiste. C'est le fait que les juridictions nationales deviennent de plus en plus les amis de la Convention. Ce qui veut dire que la Convention sera de plus en plus bien appliquée au niveau national. On peut penser qu'il y a d'autres priorités. On est plus du côté de la sécurité, de la lutte contre les inégalités. Mais là, ce sont des choses qui ne sont pas étrangères aux droits de l'homme.
Sûr.
Même la préoccupation sécuritaire, ça s'est reflété dans la Convention. C'est-à-dire que là, même la lutte au terrorisme est même une obligation pour les États, d'après la Convention, parce qu'il y a les obligations positives qui découlent
ça. Nous resterons, Monsieur le Président, si vous voulez bien, parce que malheureusement le temps est échu, sur cet optimisme que vous exprimez. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci Guido Raimondi. Matière à penser, Guido Raimondi, Jacques Hubert, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous avec Mireille Delmas-Marty, une autre grande voix sur cette question des droits de l'homme, pour continuer cette réflexion. Bonsoir.